Les matins se poursuivent avec le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La France n'a pas de leçons à recevoir à propos des violences policières autour des gilets jaunes. C'est en substance le message lancé hier soir par Édouard Philippe en réponse à la demande d'enquête formulée par la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. Décryptage de la contre-attaque du Premier ministre avec Rosalie Lafarge dans un instant.
Emmanuel Macron sera cet après-midi à Sainte-Croix-du-Verdon dans les Alpes de Haute-Provence pour débattre de la transition écologique.
Oui, dans le grand débat national, le plus dur, c'est l'atterrissage. Ce sera le thème du billet politique de Frédéric Seyss juste après ce journal.
Et dans ce journal, nous irons aussi en Afrique du Sud où deux fermiers blancs reconnus coupables de la mort d'un adolescent noir ont été condamnés à 23 et 18 ans de prison hier.
Oui, l'ONG Human Rights Watch publie un rapport glaçant sur la torture pratiquée en Irak sur des enfants par les autorités irakiennes et par le gouvernement régional kurde. Précision avec Valérie Crova dans un instant.
Et puis Sophie, cette question, où sont passés les bulletins de notes de Donald Trump alors?
Oui, et à cette question, le Washington Post répond que le président des États-Unis les aurait fait disparaître de l'école militaire de New York. Précision signée Grégory Phillips à Washington dans ce journal. La haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU demande à la France une enquête approfondie sur les violences policières pendant les manifestations des Gilets jaunes. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue et demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force, a lancé Michel Bachelet dans un discours devant le Conseil des droits de l'homme à Genève hier. Le Premier ministre Édouard Philippe a répliqué quelques heures plus tard, hier soir sur BFM TV, une réponse ferme sur le thème de « la France n'a pas de leçons à recevoir ». Rosalie Lafarge.
C'est sur la formule « usage excessif de la force » utilisée par la haut-commissaire que semble tiquer Édouard Philippe.
Il faudra probablement expliquer à Madame le haut-commissaire l'ensemble des faits, et notamment l'extrême violence qui s'est déchaînée sur les forces de l'ordre. Donc on n'a pas attendu le haut-commissaire de l'ONU pour faire toute la lumière sur l'ensemble des faits dès lors qu'il y a des plaintes et dès lors que nous considérons qu'il faut évidemment faire toute la transparence sur l'ensemble des faits. Mais j'aime beaucoup entendre les conseils du haut-commissaire de l'ONU. Enfin, je rappelle qu'en France, on est un état de droit et que la République, à la fin, elle est la plus forte.
La République plus forte que les casseurs, plus forte que ceux que le président appelle les complices du pire. Sans reprendre la formule d'Emmanuel Macron en entier, Édouard Philippe envoie à son tour un avertissement aux Gilets jaunes.
Quand une manifestation se disperse, quand on sent le moment où quelques excités ou quelques personnes très calmes qui ont clairement pour volonté de faire basculer l'ensemble dans la violence commencent à prendre la main sur la manifestation, à ce moment-là, ceux qui restent, ceux qui regardent, ceux qui parfois sont entraînés, ceux-là, évidemment, se rendent d'une certaine façon complices de quelque chose. Ça n'est pas acceptable.
Les Gilets jaunes, dont l'un des groupes Facebook appelle à manifester dès demain et pendant 3 jours à Paris pour un acte 17 jugé décisif et baptisé « Nous ne bougerons pas ».
Les corps d'au moins 3 personnes, dont 2 enfants, ont été retrouvés ce matin lorsqu'un bateau de migrants a coulé près de l'île grecque de Samos, selon des gardes-côtes grecs ce matin. Au moins 12 personnes se seraient trouvées à bord de ce bateau. Les 2 enfants sont décédés peu après avoir été recueillis et le corps d'un homme a été trouvé peu après, selon les gardes-côtes. Le cardinal Barbarin sera-t-il condamné ou relaxé pour ne pas avoir dénoncé les actes de pédophilie du père Prénat? Le tribunal correctionnel de Lyon rend son jugement à 9h30 ce matin. 2 mois après un procès au cours duquel 9 victimes de prêtres sont venues témoigner longuement de ce qu'elles ont vécu à la fin des années 80 à la paroisse Saint-Luc près de Lyon. Tous ces hommes reprochent au cardinal Barbarin de ne pas avoir alerté la justice quand certains d'entre eux étaient venus se confier à l'évêché. Mais à l'audience, la procureure a estimé qu'il n'y avait pas eu lieu de condamner l'archevêque. Une position du parquet totalement opposée à celle qu'avait tenu le procureur d'Orléans en réclamant et en obtenant la condamnation de l'évêque André Faure dans une affaire similaire jugée à l'automne dernier, Jean-Philippe Degnaud.
À Lyon, la procureure avait expliqué à l'audience qu'il n'y avait pas de raison de condamner l'archevêque puisqu'il n'a pas cherché à empêcher les victimes du père Prénat de porter plainte. À Orléans, le procureur était sur une toute autre lecture des textes de loi. L'évêque a privilégié le silence au préjudice de la règle de droit. Il a lancé un camouflet à la justice des hommes et nié ses responsabilités. Et le magistrat avait réclamé une peine difficile, exemplaire, un électrochoc, 1 an de prison ferme avec une incarcération effective. Le prélat sera finalement condamné à 8 mois de prison avec sursis. 2 procureurs, 2 lectures différenciées des textes de loi et de l'obligation de dénoncer des faits criminels dont on a connaissance. À Orléans, la responsabilité morale d'un chef d'église a prévalu dans la décision de condamner. tandis qu'à Lyon, le parquet estimait que rien ne liait l'archevêque à cette obligation dès l'instant où les victimes pouvaient le faire elles-mêmes. Mais ce n'est pour l'instant que la lecture du parquet. Le tribunal de Lyon pourra très bien tout à l'heure s'affranchir de ces réquisitions de relax et condamner Monseigneur Barbarin.
Jean-Philippe Degnaud, l'association La Parole Libérée estime que la bataille de l'opinion, elle, est d'ores et déjà gagnée dans cette affaire Barbarin, car la parole des victimes a été entendue et cette fois respectée. Dans l'affaire Mehdi Nemmouche, le verdict est attendu aussi ce matin à Bruxelles. Il est jugé pour l'attentat qui a fait 4 morts au musée juif dans la capitale belge. C'était en mai 2014. La culpabilité du Roubaisien de 33 ans ne fait aucun doute pour les procureurs. En cas de verdict de culpabilité ce matin, la cour retournera délibérer et devra se prononcer ensuite dans un deuxième temps sur les peines, vraisemblablement demain.
8h05 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont dans les matins. 332 amendes pour outrage sexiste depuis l'entrée en vigueur de la loi cet été. Une loi portant notamment sur le harcèlement de rue.
Oui, selon le communiqué hier de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, cette loi mise en application depuis le mois d'août dernier a créé une nouvelle contravention contre les incivilités faites aux femmes en instaurant une amende de 90 à 750 euros. Si ce chiffre est une victoire pour les promoteurs de ce texte, qui était controversé, on s'en souvient, les associations contre les violences faites aux femmes restent encore très prudentes face à cette annonce d'hier soir. C'est le cas de Laure Salmona, cofondatrice du collectif féministe contre le cyberharcèlement.
Ce que j'aimerais bien savoir, c'est quels agissements ont été du coup considérés comme des outrages sexistes, parce que ma peur au moment où cette loi est passée, c'est que finalement cette contravention vienne déqualifier ce qui relève non plus de contravention mais de délit, c'est-à-dire du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles, voire même tout simplement des injures sexistes. L'autre inquiétude, c'était que comme il faut qu'il y ait flagrance, du coup, finalement, ce sont dans certains endroits, dans certains quartiers, qu'il va y avoir le plus de présence policière et donc le plus de possibilités de constater des flagrances. Il y a aussi la question de la protection de la victime, c'est-à-dire qu'encore une fois, comme il faut qu'il y ait flagrance, ça veut dire qu'il y a forcément à un moment une confrontation qui se fait entre l'auteur de l'outrage sexiste et la victime. Qu'est-ce qui a été pensé pour que la police puisse protéger la personne victime et faire en sorte finalement qu'elle puisse ensuite continuer son chemin en sécurité?
Laure Salmona répondait à Elsa Lanzinger pour France Culture. Parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir eu des liens avec Daesh, des enfants ont été torturés et condamnés par les autorités irakiennes et le gouvernement régional kurde, selon un rapport publié par Human Rights Watch. L'ONG s'est appuyée sur des entretiens menés avec 29 enfants irakiens actuellement détenus. Valérie Croba, vous avez lu ce rapport.
Dès 2014, au plus fort du califat autoproclamé, Daesh a recruté des milliers d'enfants en Irak, certains de force, d'autres sous la pression de leur famille. Arrêtés par les autorités irakiennes ou par le gouvernement régional kurde, ces mineurs ont été reconnus coupables de terrorisme à l'issue de procès expéditifs et sur la base d'aveux le plus souvent extorqués sous la torture. Sur cette vidéo que publie Human Rights Watch, on voit les bras d'un jeune garçon marqué par des brûlures. Il raconte.
Ils éteignaient des cigarettes sur mon corps. Ils me frappaient avec des câbles et des bâtons. Ils nous ont torturés. Le policier kurde m'a dit de ne pas nier avoir fait partie de Daesh face au juge. Il m'a dit, si tu le nies, on va reprendre l'interrogatoire et te torturer. J'avais peur, alors j'ai avoué devant le juge.
Selon Human Rights Watch, les autorités irakiennes et le gouvernement régional kurde détenaient fin 2018 1500 enfants, parmi lesquels 185 étaient d'origine étrangère. Et l'ONG de défense des droits de l'homme de rappeler que les enfants impliqués dans des conflits armés doivent être réhabilités et réintégrés dans la société au lieu d'être torturés et emprisonné.
Valérie Crovin. Nous partons maintenant en Afrique du Sud pour un procès aux résonances historiques. Deux fermiers blancs reconnus coupables de la mort d'un adolescent noir ont été condamnés à 23 ans et 18 ans de prison hier. En 2017, ils avaient surpris le jeune homme de 15 ans en train de voler des tournesols sur ses terrains situés près du village rural de Koligny, à l'ouest de Johannesburg. La victime est morte après avoir été jetée du véhicule des deux hommes. L'affaire avait enflammé l'opinion publique sur fond de tensions raciales et de redistribution des terres en grande partie aux mains des Blancs. La décision du juge était donc fortement attendue, Claire Bargelès.
Pour leur défense, les deux hommes avaient affirmé qu'ils conduisaient l'adolescent au commissariat lorsqu'il a sauté du fourgon. Mais le juge Ronald Hendricks a rejeté cette version et considère que les accusés de 35 et 28 ans ont jeté la victime depuis leur véhicule. Des actes, selon lui, affreux et honteux qui leur vaut d'être reconnus coupables de meurtre et d'enlèvement. Pour autant, les deux fermiers échappent à la prison à vie car il s'agit pour chacun de leur première condamnation. Et il n'avait pas l'intention directe de tuer l'adolescent qui s'est brisé le cou en tombant. Ils devraient tous deux faire appel. De son côté, la famille de la victime se dit déçue de la décision du juge et espérait des peines plus lourdes. À l'époque, l'affaire avait beaucoup agité la petite ville de Coligny. Des émeutes avaient éclaté avec le pillage de magasins appartenant à des propriétaires blancs. Le gouvernement sud-africain espère que cette décision judiciaire permettra la réconciliation des habitants. Car les incidents entre fermiers blancs et communautés noirs sont récurrents dans le pays. Il y a 2 ans, 2 autres fermiers ont été condamnés pour avoir forcé un jeune homme à s'allonger et rester enfermé dans un cercueil afin de le punir d'avoir pénétré sur leur propriété.
Claire Bergelès à Johannesburg pour France Culture. Une grève de 24 heures à l'agence de presse Reuters afin de protester contre les réductions d'effectifs annoncées la semaine dernière par la direction. Il s'agit de la première grève à Reuters France depuis 15 ans. Les agenciers rejettent la suppression de 25 postes qui met en danger, selon eux, la production de textes de qualité en français. Aux États-Unis, Donald Trump cherche-t-il à dissimuler ses résultats scolaires? En tout cas, le Washington Post affirme que les bulletins de notes de Donald Trump ont disparu alors qu'il étudiait dans une école privée militaire de New York, et ce à la demande du milliardaire devenu président des États-Unis. Alors que régulièrement, Donald Trump se vante d'avoir été un étudiant particulièrement brillant, mais les documents qui devraient attester de ses résultats scolaires sont invisibles. À Washington, Grégory Phillips.
Donald Trump intègre cette école privée, la New York Military Academy, à l'automne 1959. Il va y passer 5 années. À l'époque, son père, Fred, pense qu'un peu de discipline fera le plus grand bien au jeune homme. Seulement, il n'y a aujourd'hui plus aucune trace du passage de Trump dans cet établissement. Le proviseur, aujourd'hui retraité, raconte au Washington Post qu'en 2011, on est donc 5 ans avant la présidentielle, des amis influents et fortunés de Donald Trump font pression sur l'école afin que les bulletins scolaires du milliardaire ne soient jamais publiés. Ils sont aujourd'hui à l'abri dans un coffre et personne ne peut les voir. Plutôt étonnant quand on se souvient qu'à la même époque, en 2011, Trump exigeait de Barack Obama qu'il dévoile ses diplômes, remettant en cause son parcours universitaire. Et plutôt étonnant de la part de quelqu'un qui ne cesse de clamer ceci. J'étais un très bon étudiant, j'étais très bon, je suis une personne très intelligente. La semaine passée, devant le Congrès, l'ex-avocat de Trump, Michael Cohen, avait reconnu que l'une de ses missions était de protéger la réputation de son client, allant parfois jusqu'à menacer certaines institutions, mais sans préciser si c'est lui qui était à l'origine ou non de la disparition de ses bulletins scolaires.
Guerreux Philippe, ce correspondant de France Culture à Washington.
8h12 sur France Culture, on va aller au Portugal, Sophie, parce que c'est la seconde émission que nous consacrons aux élections européennes en compagnie d'un grand témoin, Emmanuel de Marcimota, metteur en scène franco-portugais, et on va évoquer les élections européennes au Portugal.
Oui, et avec notre correspondante à Lisbonne, Marilyn Darcy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct ce matin sur France Culture avec nous. La campagne pour les élections européennes a-t-elle déjà commencé sur le terrain en vue du scrutin du 26 mai prochain, Marilyn?
Non, pas vraiment. Disons que l'on est en tour de chauffe dans la phase de nomination des candidats et l'élaboration des listes électorales. Alors pour ces européennes au Portugal, on se dirige vers une nouvelle coalition de droite entre des partis dont certains sont des créations récentes, mais qui se situent à droite de la droite traditionnelle. Un populisme qui emprunte ce même aux thèses de l'extrême droite, avec par exemple le parti Chega, ce qui veut dire à la fois « ça suffit » et « ça arrive, c'est en train d'arriver ». Ce parti a bel et bien déposé les 7500 signatures nécessaires pour sa constitution, mais il attend toujours la décision de la Cour constitutionnelle. Des emprunts à l'idéologie fasciste dans le texte fondateur du parti pourraient entraîner un refus de la part de cette Cour. Or, André Ventura, le leader du Chega, s'est bien gardé d'abus de langage dans le dossier qu'il a déposé. En revanche, dans le discours, eh bien, cela ne laisse aucun doute. En 2013, Ventura, qui tenait des propos ouvertement xénophobes contre les Tziganes et prône la camisole chimique pour les homosexuels, a réussi à se faire élire comme conseiller municipal de Loures. C'est une grande municipalité au nord de Lisbonne, avec le soutien du grand parti de droite social-démocrate traditionnel, le PSD Ventura, y a gagné une certaine légitimité politique.
Au Portugal aussi, les élections européennes servent souvent de test national, Marilyn.
Oui, car les législatives portugaises, c'est vrai, auront lieu en octobre prochain. L'actuel gouvernement socialiste, qui fonctionne avec une alliance d'extrême-gauche au Parlement, c'est une sorte d'ovni en Europe, eh bien remettra son mandat en jeu. Le PS du Premier ministre Antonio Costa caracole en tête des intentions de vote et pourrait reconduire l'alliance en place. Selon un sondage récent, le PS est donné favori aux européennes, mais bien sûr, il faudra tenir compte du taux d'abstention toujours élevé à l'européenne et à la dispersion des voix entre la vingtaine de partis en lice.
Merci Marilyn Darcy en direct ce matin sur France Culture.
Et on en reparle dans quelques instants en compagnie de notre grand témoin, le metteur en scène franco-portugais Emmanuel de Marcy Mota. Sophie.
Un mot de la météo, de la pluie presque partout aujourd'hui, quelques orages sur les côtes normandes, de fortes averses et des rafales de vent attendues sur les Alpes. Un soleil dominant en revanche au bord de la Méditerranée et le long des Pyrénées. Mais une fois n'est pas coutume, des averses aussi sur la côte d'Azur ce matin qui laisseront ensuite la place à un grand ciel bleu dans la journée. Les températures sont douces, comprises entre 6 et 17 degrés ce matin, 6 degrés à Annecy, 7 à Belfort, 9 à Paris, 11 à La Rochelle, 15 à Nice, 17 degrés maximum sur la Corse.
Merci beaucoup Sophie Delpont, il est 8h16 sur France Culture. Dans quelques instants, on va rendre hommage à Jean Starobinski, le grand critique littéraire est mort hier à l'âge de 98 ans en Suisse. Mathilde Serrel lui consacrera son billet culturel. On sera également en ligne avec notre camarade Alain Finkielkraut et puis Emmanuel de Marcy Mota, metteur en scène franco-portugais, et nous dira également quelques mots sur Jean Starobinski, puisqu'il a eu l'occasion de plusieurs fois converser avec lui au sujet de Rousseau, au sujet également de Ramuse, le grand écrivain suisse que Starobinski aimait particulièrement. Andreas Gursky, lui, sera le thème de la conclusion d'Aurélien Bélanger, et puis un billet politique en votre compagnie, Frédéric Saïs, avec un art assez différent de celui que nous venons d'évoquer.
Oui, celui de l'atterrissage. Dans une semaine, c'est la fin théorique du grand débat qui a fait déplacer des dizaines de milliers de personnes. Comment éviter maintenant un résultat déceptif, pas si simple ?